Alors, ce dimanche de mois d'août tombe en plein milieu des Jeux Olympiques. Donc, je m'en suis un peu inspirée pour cette prédication, évidemment, parce que j'aime bien les fêtes, et Paris est en fête, la France est en fête. L'ambiance est bonne, et alors, si vous voulez, voilà, vous pouvez fermer la porte. Comme il n'y a pas de circulation, et que la circulation est bloquée, normalement, ça pourrait suffire de... Voilà, il va y avoir de l'aide pour fermer la porte. Mais quand on a les petites voitures de la ville qui nettoient Montrouge, c'est compliqué d'être au calme. Merci. Alors, je vais commencer par la cérémonie d'ouverture. Comme beaucoup de monde, eh bien, j'ai regardé cette cérémonie à la télévision et j'ai bien aimé. Et ce qui a attiré mon attention, c'est quand... Bon, voilà, il y a le spectacle, et puis il y avait les équipes qui défilaient les unes après les autres. Et les équipes défilaient dans l'ordre alphabétique du nom de leur pays. Et du coup, elles étaient dans leurs bateaux, parfois des gros bateaux et parfois des petits bateaux. Et puis, quand je voyais le nom du pays, son drapeau et ses athlètes criant et se réjouissant, eh bien, forcément, je pensais... à ce qui se passe dans ce pays. Les images de ce que je connais du pays me venaient à l'esprit.
Alors, je voulais dire que ça a été assez rigolo, la fête de Jeux Olympiques.
Parfois, il y avait des petits pays dont j'ignorais totalement l'existence, et je trouvais assez extraordinaire que ces tout petits pays, eh bien, ils puissent aussi avoir leur place dans ce défilé, au même titre que la France ou les États-Unis qui étaient dans d'énormes pays. Ça, c'est cette égalité qui m'a frappée. Et puis, en voyant défiler les noms des pays, j'ai pensé à l'actualité du monde et aux pays en guerre. Comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner quand on appartient à un pays en guerre? L'Ukraine participe et les athlètes russes sont sous bannière neutre. Israël, la Palestine ont défilé, l'Iran, les pays arabes ont défilé. Et puis dans cet ordre alphabétique, j'ai vu presque en même temps l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et je m'arrête un instant sur ces deux pays parce qu'on a un ancien pasteur dans notre paroisse qui s'appelle Samuel Sahagian. Et en fait, je vais faire un culte de maison tout à l'heure, cet après-midi, chez eux. Et en fait, ils viennent de l'Arménie. Et on sait que l'Azerbaïdjan a effacé de la carte le Haut-Karabakh et que l'Arménie reste un pays très vulnérable. Et c'est ainsi que ce texte d'Ésaïe 11 m'est venu à l'esprit. Le loup habitera avec l'agneau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, la vache et l'ours auront même pâture. Alors évidemment, ce sont des images. Et dans la Bible, on trouve énormément d'images qui sont des métaphores, des comparaisons. Le prophète choisit ces images pour dire que les pires ennemis seront capables de cohabiter, capables de manger ensemble autour d'une même table. Alors, on a eu la réflexion sur ce texte jeudi soir, on vous en parlera tout à l'heure, et quelqu'un disait, de toute façon, c'est un texte à la limite à rejeter, c'est une utopie, ça n'existe pas. À quoi ça sert d'avoir ce texte? Est-ce que c'est juste un avant-goût du royaume qui nous arrivera après notre mort, et puis voilà, après, il n'y a rien à en faire? Eh bien, pour moi, voir ces pays en guerre défiler les uns à côté des autres m'a donné l'espérance que cette promesse n'est pas seulement à attendre après la mort. Elle peut survenir dès maintenant, dès aujourd'hui. Et c'est ce que Jésus nous dit quand il parle du royaume qui est déjà là, au milieu de nous et même en nous. Ceux qui défilent, ce sont des athlètes qui ont chacun et chacune leur histoire. Ils sont là pour se dépasser, bien sûr, ils sont là pour être en compétition. Mais ce que je me dis, c'est qu'à partir du moment où des personnes sont ensemble, se côtoient, peuvent se retrouver à côté les unes des autres, eh bien, elles peuvent oser se parler, elles peuvent déjà se réjouir ensemble. Alors, je ne suis pas loin de penser qu'on peut attribuer à Dieu ces moments qui arrivent, ces moments favorables, sans qu'on les ait imaginés un instant. Alors, je vous donne un exemple que vous avez peut-être vu passer déjà. En tennis de table, le ping-pong, eh bien, les Chinois ont gagné la médaille d'or. Les Coréens du Nord ont gagné la médaille d'argent et les Coréens du Sud ont gagné la médaille de bronze. Ils se retrouvent donc tous les trois, enfin les trois, ils sont deux par équipe, donc les six, sur le même podium. Et déjà en soi, c'est absolument extraordinaire. Et puis, la Chinoise a pris l'initiative de faire un selfie, donc elle a fait un selfie et évidemment un photographe était là pour prendre en photo ce qu'elle était en train de faire. Elle a fait un selfie avec les Chinois, les Coréens du Nord et les Coréens du Sud. Incroyable, elle va garder sur son image les trois nationalités tellement en guerre les uns et les autres. Et c'est vrai que j'étais contente que les journaux relayent ce genre d'image. On en a tellement besoin. Et on sait combien les gestes porte un symbole fort. Souvenons-nous du président français, François Mitterrand, qui a donné la main au chancelier Helmut Kohl en juin 1984. C'était un moment de commémoration pour se souvenir des morts des deux guerres mondiales. C'était à Douaumont. C'était un geste spontané qui a été extrêmement fort pour le symbole de la réconciliation franco-allemande. Avec le texte d'Ésaïe, le défi du vivre ensemble, eh bien, c'est d'apprendre à se regarder autrement que comme des ennemis. Alors bien sûr, le loup ne va pas devenir un agneau, mais ils pourront se regarder autrement que comme l'ennemi à abattre ou à dévorer. Dans Galates, Paul il dit « Sinon vous allez vous dévorer les uns les autres, si vous vous mordez les uns les autres ». Il y a vraiment cette image de l'animal qui saute sur l'autre. Et pour moi, les moments de réconciliation sont des moments du royaume de Dieu. Cela ne se voit pas, cela ne fait pas de bruit. Une réconciliation entre des peuples ou entre des personnes, c'est un événement qui porte une grande fragilité en soi. Elle a pu prendre des années, cette réconciliation, et peut-être que les acteurs savent que rien n'est jamais acquis. Peut-être que la blessure est toujours là, mais elle n'empêche plus la relation entre les personnes. On ne risque plus sa vie en étant en relation. On ne risque plus d'être déséquilibré en se parlant, en se voyant. La réconciliation demande de la volonté et de la volonté personnelle. La paix commence par soi-même. Et c'est pour cette raison que le texte des Béatitudes dans Matthieu m'a paru approprié pour continuer notre réflexion. La paix commence en nous, les luttes sont en nous-mêmes. Nos propres violences nous surprennent parfois. Et là, Jésus nous donne un guide pour vivre avec. Il ne dit pas que la vie sur terre est facile. Il ne dit pas qu'on doit vivre comme si la violence n'existait pas, comme si l'injustice n'existait pas. Mais les béatitudes ouvrent un chemin où elles peuvent être accueillies, traversées et surmontées. Jésus n'encourage pas la force, mais la résistance. Être doux, par exemple, est une résistance à la violence. Ce n'est pas accepter n'importe quoi. C'est simplement résister à ma propre violence quand on me fait violence à moi-même, résister à répondre violemment. Jésus encourage à accueillir tous les manques sans qu'ils soient des raisons de désespérer de la vie. Être pauvre n'est pas un obstacle pour être aimé de Dieu. La richesse spirituelle peut être parfois bien plus grande que lorsque on est dans le confort d'une vie riche. Pleurer n'est pas un signe qu'on est abandonné de Dieu. C'est être capable de traverser la tristesse en laissant couler les larmes. C'est accepter d'être vulnérable et même de le laisser voir. Jésus attire notre attention sur le fait qu'avoir faim et soif de justice est une réalité pour beaucoup de monde. Ce n'est pas sur notre terre que justice sera rendue. La justice humaine fait ce qu'elle peut et c'est déjà fondamental, mais elle est très imparfaite. Personne hors de Dieu ne peut avoir une vision parfaite des situations conflictuelles et de leur vérité. Il y a des vérités que personne ne connaîtra jamais sur notre terre. Certaines injustices personnelles ne seront jamais reconnues. Mais elles sont connues de Dieu. Alors est-ce que cette béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, est-ce que cette béatitude est un appel à ne rien faire? Je crois que non, au contraire. Je pense que Jésus nous encourage à lutter contre les injustices. Mais une fois qu'on a agi, il y a des situations qu'on ne peut pas changer. Et cette promesse de Jésus, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. En tout cas, pour moi, ça permet d'accepter notre propre limite. Tout ne dépend pas de nous et Dieu le sait. Et on peut lui dire, j'ai fait mon travail, maintenant je ne peux plus, c'est à toi de jouer. On peut lui remettre notre impuissance devant les situations difficiles. Juste après arrive la miséricorde, le pardon. Je pense que ce n'est pas pour rien. Le sentiment des injustices vécues peut nous rendre amers ou nous mettre en colère. Il faut de la volonté pour dépasser nos ressentiments et avancer vers le pardon. Dans la traduction d'André Chouraki, l'écrivain israélien, il traduit « en marche » à la place de « heureux ». Vous la connaissez peut-être, cette traduction. Et en fait, j'aime bien cette idée qu'on a besoin de se mettre en mouvement pour donner et recevoir le pardon, même si cela met des années et des années. C'est un chemin. Dans le texte d'Ésaïe, la promesse de paix est donnée. Là, Jésus nous dit que la paix est une œuvre, un travail. Heureux ceux qui font œuvre de paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Alors, je vous propose un dernier exemple avec les Jeux Olympiques. Au cœur du village olympique, il y a un lieu dédié à toutes les religions. Les aumôniers sont là pour accueillir les athlètes et leur entourage et les demandes de soutien sont de tous ordres. Chaque culte dispose de 50 mètres carrés dans des espaces séparés par des cloisons coulissantes. On est donc au cœur de Paris. Les aumôniers sont de toutes les religions. Et les aumôniers juifs et musulmans ont pour leur part choisi symboliquement d'être côte à côte et accepté de partager leurs espaces si la demande l'exige. Je rappelle que nous sommes en France. Et je cite « Nos religions sont les plus proches », justifie le grand rabbin Moshe Levine. Ce n'est pas un espace politisé ou géopolitisé. Nous voulons apporter de la fraternité. D'autant que nous travaillons ensemble depuis longtemps, c'est une forme de leçon pour le monde. Oh oui, c'est une forme de leçon et pour des Français aussi. C'est un témoignage incroyable qui nous montre, qui nous permet de voir que on peut se mettre à côté les uns des autres pour dire combien le Dieu unique est un Dieu de fraternité. Alors réjouissons-nous de ces moments de fraternité et confions à Dieu notre impuissance devant tout ce qu'on ne peut pas changer. Que la présence du Dieu d'amour nous mette en marche et nous rassure au cœur de nos vulnérabilités et de nos manques. Que la présence de Jésus-Christ soit notre joie. Amen.